Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal, Pascal Massirika.
À la une de l'actualité, investiture cet après-midi à Kinshasa du gouvernement Samalou Kondé Kiengé par l'Assemblée nationale. À l'occasion, le Premier ministre congolais a annoncé que le président Félix Tshisekedi Tshilombo pourrait décréter l'état d'urgence sécuritaire dans les zones en conflit. Le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental dit n'avoir trouvé au trésor public que 338 millions de francs congolais seulement après la déchéance du gouverneur Jamaweja. Jean Longa, qui déplore les dépenses non justifiées, promet de placer sa gestion sous les signes de la transparence. Notre invité, c'est le point focal des associations féminines pour le développement de Beni au Nord Kivu. Madame Patience et Sinamouli parlent de l'atelier organisé sur l'éducation des femmes pour la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre. Madame, Messieurs, bonsoir. Le gouvernement Samalou Kondé a été investi cet après-midi de lundi à Kinshasa après la présentation de son programme par le Premier ministre. Sur 412 députés nationaux, 410 ont voté pour, aucun député national n'a voté contre et deux se sont abstenus. Dans son programme d'action, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé a affirmé que son gouvernement est déterminé à restaurer la sécurité dans l'est de la RDC. Il a annoncé également que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pourrait décréter l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en conflit. Ces propos ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
Ce gouvernement n'a qu'une seule ambition, celle de concrétiser la volonté de placer le pays sur l'orbite du progrès et de la prospérité. Il s'agit de faire triompher le droit sur l'arbitraire, la prospérité sur la misère, la paix sur la guerre et la solidarité sur l'égoïsme. La pacification à l'est du pays est une urgence nationale. Le gouvernement entend mobiliser tous les moyens requis pour éradiquer tous les groupes armés et mettre fin à cette crise sécuritaire. Dans cette optique, aucune option ne sera exclue, y compris celle de la proclamation par le chef de l'État de l'état d'urgence sécuritaire dans toutes les zones en proie à des violences et aux conflits armés. Avec comme conséquence, notamment le remplacement de l'administration civile par l'administration militaire dans les dites zones. Ces mesures s'imposent au vu de la persistance du cycle infernal de la violence dont nos populations sont victimes depuis plus de 20 ans.
Et puis en Ituri, les conséquences de l'insécurité s'amplifient dans plusieurs localités et centres commerciaux. Le carburant, les vivres et d'autres produits de première nécessité sont devenus rares sur les marchés et les prix ont presque triplé depuis une semaine. À la base, des miliciens empêchent le trafic de véhicules de marchandises. Les opérateurs économiques du coin et les habitants demandent au gouvernement de restaurer au plus vite l'autorité de l'État dans cette province. À Bounia, faisons le point avec Isaac Remoyopé.
La vie est devenue intenable pour la majorité de la population en Ituri à cause de l'activisme des groupes armés. C'est notamment la Force patriotique et intégrationniste de l'Ituri, FPIC, qui a multiplié les attaques la semaine dernière sur les tronçons Bounia-Komanda. Au nord, sur les tronçons Bounia-Mahagi, c'est la milice Codeco qui tend des embuscades aux véhicules qui sont brûlés ou pillés. Les commerçants ont résolu de ne pas engager leurs véhicules sur cette route nationale numéro 27. Le président de la FEC Ituri indique que plus de 200 véhicules transportant du carburant sont stationnés à Mahagi en attendant l'amélioration de la situation sécuritaire, ce qui crée la pénurie des vivres et d'autres produits de première nécessité. À Bounia par exemple, plusieurs stations-service dont les stocks de carburant sont épuisés sont fermés depuis le week-end. Dans les deux stations qui sont opérationnelles, un litre se vend actuellement à 3000 francs congolais, voire 4000 francs contre 1900 francs habituellement, ce qui a une incidence sur les transports en commun et les courses dans la ville. Une botte de feuilles de manioc est passée de 500 francs à 3000 francs congolais. prochain. La population redoute une crise alimentaire qui risque de susciter la tension dans la région. Bounia, Isakre Moyope, Radio Okapi.
Non loin de là, à Beni, les activités socio-économiques ont repris ce lundi dans cette ville du Nord Kivu, à l'exception des écoles qui ne fonctionnent toujours pas. Seuls les enseignants ont répondu à l'appel du chef de la sous-division de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Mais cette relance des activités est saluée par certains commerçants. On reste à Beni au Nord Kivu où, malgré l'appel à la reprise des cours, les élèves continuent de camper sur l'esplanade de la mairie. Le porte-parole du Parlement d'enfants affirme que les cours ne reprendront que si le chef de l'État arrive à Beni pour mettre fin à l'insécurité qui prévaut dans la région. Salva Ndoulani le dit au micro de Marc Marofimbo.
Nous avons fait plus de 414 jours sans étudier depuis 2018 à Beni. Et dans quelles conditions on étudie? J'espère que dans notre région, on étudie aujourd'hui et demain, il y a coupure. C'est pourquoi nous avons besoin du chef de l'État, afin qu'il puisse venir résoudre nos problèmes. On a compris que même si on commençait à étudier aujourd'hui, encore demain, il y aura coupure des cours. C'est pourquoi nous voulons assez que lorsque le président sera là, il va répondre à nos inquiétudes et résoudre les problèmes. Le problème, c'est la sécurité. S'il y a la sécurité, il y aura une bonne éducation. Même pas seulement la sécurité, voir comment il peut résoudre les problèmes de ces groupes de pression. Je vous dis, ces journalistes, nous avons appelé la reprise des cours à maintes reprises, sans succès. C'est pourquoi nous avons vu qu'il fallait maintenant attaquer les problèmes, pas attaquer les conséquences. Il y a des enfants victimes de massacres, victimes d'Ebola, des enfants qui n'ont plus de parents. Même s'ils partaient à l'école, ils n'ont plus les moyens pour aller étudier. Même s'ils étudient, à quelles conditions ils étudient, cher président. C'est pourquoi venez à Beni, c'est la chose la plus importante. Mais dire que les enfants veulent quitter la mairie, c'est que vous ne pouvez pas arriver à Beni. Après tout ce qu'ils ont à dire, c'est impossible. C'est pourquoi je vous appelle à bien vouloir arriver à Beni. C'est la chose la plus importante que les enfants attendent de vous, cher président.
Béni encore, le secrétaire permanent du syndicat des enseignants du Congo, Sieko, craint pour l'avenir des élèves qui ont refusé de reprendre les chemins de l'école ce lundi. Christophe Okambale met les élèves et les parents devant leurs responsabilités. Il s'est confié à Guylaine Kassassia.
Nous avons bien accueilli d'abord le message, puisque ce message venait de notre chef. Heureusement, tous les enseignants sont arrivés dans leurs écoles, comme vous venez de le constater. Et nous sommes là, nous attendons. Malheureusement que les affaires ne sont pas là. Si les affaires arrivent, nous sommes prêts à leur donner cours. Au niveau du syndicat, on n'a aucun problème, hein, puisque nous sommes là. Je ne pense pas que l'on puisse réaménager les calendriers pour la ville de Beni. Alors, le retard sera consommé, donc que les affaires soient conséquentes. Il est vrai qu'ils réclament une chose noble, mais ils doivent lire les signes de temps. Aux parents comme moi, je demande de raisonner deux fois et de voir est-ce que ce que nos enfants demandent vraiment ça va amener à la solution. Si ça va amener à la solution, que les parents les accompagnent. Mais si on trouve que ça ne va pas amener à la solution, que les parents voient les enfants à l'école pour que nous puissions sauver l'année, sauver nos enfants, puisque au même moment, ce sont nos enfants qui sont en train d'être massacrés intellectuellement parlant, parce qu'ils sont en train de perdre, mais ailleurs, on est en train d'étudier. Nous allons regretter tous, si on déclare une année blanche, ce sont nos enfants qui auront perdu.
Par contre, il y a eu reprise normale des activités socio-économiques ce lundi à Butembo, toujours au Nord Kivu. En effet, après 3 semaines de fermeture, les commerces ont rouvert leurs portes. Les activités scolaires ont également repris. Au Sud Kivu, pendant 7 ans, un mouvement massif des habitants est signalé depuis jeudi dernier dans plusieurs villages de la chefferie de Bafouliru en territoire d'Ouvira. Selon la société civile de l'Émirat, plus de 1400 déplacés accueillis le week-end dernier à l'Émirat se sont dirigés tout droit vers Bouéguéra. D'autres venus de Rurambo sont arrivés ce lundi matin au chef-lieu de la chefferie. Ils fuient les affrontements entre des miliciens Goumino et les Maïmaï dans les hauts et moyens plateaux. À Ouvira, une correspondance de Fiston Gomamayabala.
Ces déplacés sont en majorité des femmes, des enfants et des personnes du troisième âge. Ils sont arrivés par plusieurs vagues accompagnés de leurs gros et petits bétails en provenance de Bijojo, Kifune, Kachama et de Rurambo, des villages situés dans les hauts plateaux du groupement de l'Emera. Le président de la société civile de l'Emera, Innocent Daeba, précise que depuis une semaine, ces mouvements massifs concernent toutes les communautés en conflit dans la région.
Tout le monde, bon, les Bafouliers ont fouillé la semaine passée. Et aujourd'hui, ce sont les Bayamoulé, maintenant, qui sont en train de fouiller aussi. Ceux qui ont fouillé, ils ont dit qu'il y a eu incendie de toutes les maisons. Il y a affrontement entre Goumino et Maïmaï. Les FARDC, bon, ils sont là, ils observent tout simplement. Ceux qui ont continué jusqu'à Bouéguéra sont des Banyamouleng. Mais les autres, les Bafouliru, les Banyindou, sont dans le village environnant de l'Emera.
Ces combats entre la coalition des Goumino Tugwaneo et le Mai Mai et alliés ont été signalés vendredi dernier. Le Mai Mai avait fait une incursion dans la localité de Bijabo pour déloger les Tugwaneo positionnés dans la région lorsque ces derniers ont riposté. 8 morts ont été confirmés dans le décan, ainsi que l'incendie des maisons, d'un centre de santé local et d'une école primaire. Douvira Fiston Mamayaba, la Radio Okapi.
On enchaîne avec le Kasaï oriental où l'insécurité a baissé dans la cité de Katanda et les activités commerciales peuvent se poursuivre la nuit, y compris les études des élèves. C'est la conséquence de l'installation de 45 lampadaires pour l'éclairage public depuis près d'un mois. Annonce faite à Radio Kapi par le député Bintoun Toumba Tchiabola, élu de Katanda. Il a été joint par Alain Rung Mouchige.
Les bénéfices que tire la population depuis l'installation des lampadaires publics, c'est que les commerces qui se faisaient uniquement la journée peuvent actuellement se faire même la nuit. Les commerçants peuvent vendre leurs marchandises même la nuit. Avec l'éclairage public, cela a contribué également à réduire l'insécurité dans la cité de Katanda. Voilà pourquoi la population appelle le chef de l'État et le gouvernement de l'Union Sacrée, qui sera bientôt investi, de doter l'ensemble du territoire de Katanda de lampadaires publics dans tous nos 4 secteurs et dans tous les villages. Nous profitons une fois de plus pour remercier le chef de l'État et son premier ministre pour la sortie du gouvernement, notre premier gouvernement de l'Union Sacrée. Nous demandons à tous les députés nationaux d'investir le plus vite que possible ce gouvernement afin qu'il puisse se mettre au travail pour résoudre les problèmes socio-économico-sécuritaires de la population, pour qu'il s'occupe du peuple congolais d'abord.
C'est ce qui a été fait cet après-midi à Kinshasa. Le député Ntumba Tchiabola Bintou plaide aussi pour l'installation des lampadaires solaires dans les 4 secteurs du territoire de Katanda pour impulser le développement. On reste dans cette province où les trésors publics ne disposent que de 338 millions de francs congolais. Révélation faite à la presse ce dimanche par le gouverneur intérimaire du Kasaï oriental. Madame Jeannette Longa Mouswamba a pris ses fonctions après la déchéance du gouverneur Jean-Maweja Mouteba. Elle déplore les dépenses non justifiées et la baisse des recettes. Elle promet ainsi de placer sa gestion sous les signes de la transparence. Ses propos ont été recueillis par les journalistes de la radio Fraternité Buena Mwintu.
Une semaine après le travail, le constat est amer dans notre province. Nous avons trouvé 338 millions de francs congolais en tout. Pour ce qui est de salaire, il faut dégager au moins 317 millions de francs congolais. Quand vous faites les calculs, 338 millions par rapport à 317 au taux budgétaire, ça nous reste quoi? Nous avons échangé avec DGKO. Durant 2019, l'année où nous avons pris le pouvoir, 2020, ils ont réalisé plus de 8 milliards de francs congolais. Qu'avons-nous fait avec les 8 milliards de francs congolais ici chez nous? On pouvait quand même commencer quelque part, mais rien n'est fait jusque-là. Et quand vous regardez plus de 8 milliards de francs congolais, le personnel est impayé, ça fait déjà 4 mois. En dehors de ça, au début de notre travail en 2019, le poste de péage ont réalisé 10 à 12 millions de francs congolais par jour. Dans la prise de pouvoir, j'ai trouvé qu'on verse aujourd'hui 2 millions de francs congolais par jour au lieu de 12, 10. En plus de cela, il y a augmentation des travailleurs au poste de péage.
Actualité internationale.
Au Tchad, Albert Pahimi Padake vient d'être désigné Premier ministre ce lundi. Il avait déjà été chef du gouvernement du défunt président tchadien Idriss Déby Itno de 2016 à 2018 et était même candidat à l'élection présidentielle. La justice française a annulé aujourd'hui les poursuites contre la filiale française de Samsung qui est accusée par des ONG de violer les droits humains dans ses usines en Chine. La filiale du leader mondial des smartphones avait été accusée des pratiques commerciales trompeuses en avril 2019 dans une enquête sur la base d'une plainte formulée par des ONG solidaires, une plainte qui avait été jugée irrécevable par la Cour d'appel de Paris le 30 mars.
L'invité.
Notre invité, c'est le point focal des associations féminines pour le développement de Béni au Nord Kivu. Madame Patience Sinamouli Kavira parle de l'atelier sur l'éducation des femmes pour la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle s'entretient avec Marc Marofimbo.
Maître Patience Sinamouli, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
La détraumatisation et l'éducation à la paix d'une femme, un moyen pour lutter contre les violences basées sur le genre. Pourquoi avoir choisi ces genres de thématiques pour sensibiliser les femmes?
Si nous avons choisi ce thème, c'est par rapport au contexte que nous traversons. La femme en général, elle est traumatisée suite aux différents événements que nous traversons. Surtout la ville de Beni, compte tenu des différents événements, les tueries à répétition, toutes sortes de désordres que nous vivons au quotidien. Et la femme, elle est vraiment affectée. Et nous avons vu que pour que la femme participe ou pour que la femme s'implique à la consolidation de la paix, elle doit être d'abord détraumatisée. Donc il faut des séances de détraumatisation pour aider cette femme, pour la rehausser de morale, pour la rappeler en fait à ses responsabilités. Elle doit d'abord dégager de ses strengths ce qui l'enquête pour qu'elle soit en mesure de prendre aussi une nouvelle et là, comment est-ce qu'elle peut lutter dans la consolidation de la paix. Surtout à ville de Beni, parce que la situation est tellement compliquée. Parce que vous le constatez, même aujourd'hui, là, nous sommes en train de travailler sous le coup de balle des bombes lacrymogènes. La situation est vraiment tendue. Et cette femme-là ne pourra vraiment s'en sortir si elle n'est pas détraumatisée.
Oui, cette détraumatisation, vous pensez, peut passer par quel type de mécanisme concret?
En fait, nous passons d'abord par la sensibilisation. Nous devons leur montrer que la situation que nous traversons, elle est passagère. Parce que la plupart des autorités s'impliquent pour la recherche de la paix. C'est une question d'État. Donc nous sommes en train de sensibiliser les femmes, qu'elles mettent en fait confiance à Dieu, parce qu'elles sont toutes des femmes chrétiennes, surtout avec les couches que nous travaillons, sont les femmes chrétiennes. Donc elles doivent se recourir de la Bible, attendre ce que Dieu fera d'elles, pour qu'à travers elles, la ville serait peut-être sauvée.
Il y avait des thématiques dans votre sujet du jour. Vous avez parlé des traumatisations et de l'éducation, mais aussi les violences basées sur les genres. Alors, partant de cette thématique des violences basées sur les genres, comment arriver alors à baisser ces cas de violences basées sur les genres dans la ville de Béni et territoire?
Les cas de violences basées sur les genres seront réduits à la baisse si tout le monde s'impliquait. Les hommes et les femmes, tous nous devons nous impliquer par rapport à cette lutte. Voilà pourquoi est-ce qu'il y en a aussi les hommes qui participent à la formation, pour qu'ils aussi à leur tour puissent aussi vulgariser ou soit conscientiser les autres hommes pour dire que les violences basées sur les genres nous concernent tous. Ce n'est pas seulement la femme qui est violée. Les hommes aussi subissent des violences, mais tous nous devons nous liguer comme un seul homme.
Alors, quel est le message clé qui a scellé votre atelier du jour?
Le message clé du jour était la détraumatisation d'une femme, l'éducation à la paix, l'implication et la participation de la femme pour la consolidation de la paix. Au Nord Kivu, à République démocratique du Congo, plus particulièrement à la ville de Beni, parce que c'est là où se vit plus des atrocités. Les femmes sont subies à de différentes formes de violences, nous le répétons chaque jour. Donc, cette femme-là doit être détraumatisée. Cette femme-là doit s'impliquer dans la recherche de la paix et cette femme doit participer en fait à la consolidation de la paix. C'était ça, les mots clés qui ont fait notre atelier du jour.
Madame Pachas, nous vous disons merci.
C'est nous qui vous remercions.
C'était l'invité de Radio Okapi, le point focal des associations féminines pour le développement de Béni. Madame Patience Sinamouli Kavira parlait de l'atelier sur l'éducation des femmes pour la paix et la lutte contre les violences basées sur le genre. Elle était interrogée par Marc Marofimbo et c'est la fin de cette édition d'information sur Radio Okapi. Merci d'avoir écouté infiniment. Merci à Noëlla Luzitu Kabambi qui l'a coordonnée sous la supervision éditoriale de Pelegi Pelamondo.